Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour cette liberté de pouvoir nous réunir, nous retrouver. Et merci d'être avec nous, Seigneur, de nous protéger, de nous garder. Et nous te demandons que tu conduises encore ceux qui doivent se joindre à nous et que tu bénisses ces instants, que tu nous enseignes par ta parole, par ton esprit, et que nos cœurs puissent être réconfortés, et que nous puissions repartir avec le désir d'obéir à ta parole aussi, Seigneur, et agis en nous pour que nous nous soumettions à elle, nous te prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne massent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira t'il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, je vous envoyais quelques petites questions sur ce texte un peu pour nous guider un peu ce soir. Donc le thème de l'inquiétude est celui que je veux traiter. L'inquiétude ou la foi, c'est un peu le sujet ici dans ce passage. Et ma première question est pour vous, êtes-vous inquiet? Êtes-vous inquiet, hein? Imaginez qu'on fasse ici un petit sondage, oui, non, etc. J'ai lu dans un article de l'Express que Monsieur le Président de la République, au temps du Covid-19, a fait beaucoup de, par ses services gouvernementaux, des sondages pour à mesurer l'anxiété des Français. Donc, il y a un service d'information du gouvernement, ça s'appelle SIG, Service d'information du gouvernement, ce n'est pas sous l'inspiration de la grâce, ça ressemble. Mais... Et donc, cet outil, apparemment, sert à prendre des décisions. Et ce qui est l'objectif de ce sondage, c'est de suivre les craintes des Français. Autrement dit, on pourrait dire de suivre l'inquiétude des Français à propos de la situation sanitaire particulièrement, et puis à travers une série de questions sur leur capacité à accepter les mesures qui sont en vigueur. Alors, une question qu'on pose, c'est à propos de l'épidémie du coronavirus, diriez-vous que vous êtes très inquiet, assez inquiet, pas vraiment inquiet ou pas du tout inquiet pour vous et pour vos proches? Voilà la question qui... est posée. Mais la question peut être posée à nous. Hein. sommes-nous inquiets? Êtes-vous inquiets? Alors, l'inquiétude, bien sûr, ne concerne pas seulement les hommes du passé. On disait que les gens étaient inquiets parce qu'ils n'avaient pas de connaissances, etc. Mais c'est quelque chose qui nous concerne encore aujourd'hui. Et je l'avais déjà cité ici une fois, mais en 2017, un sondage a été fait et les Français ont été déclarés champions du monde de l'inquiétude et du repli sur soi. Parce que c'était les plus grands consommateurs de médicaments contre l'anxiété ou contre les insomnies, par exemple, ou tout cela. Êtes-vous inquiet? Qu'est-ce que l'inquiétude? On a dit tout ça, mais on n'a pas dit ce que c'est que l'inquiétude. Alors, c'était la première question que je vous avais posée. Selon vous, c'est quoi l'inquiétude? Comment vous comprenez l'inquiétude? Je vous écoute. J'ai entendu un murmure. La peur du lendemain. Le peur du lendemain. D'accord, très bien. Ouais, d'autres? Une définition? Donc, c'est une peur, c'est ça? C'est un sentiment? Quel genre de sentiment?
De peur.
De peur, oui. D'accord, sentiment de peur. Ok, donc j'ai regardé. Quelqu'un d'autre veut peut-être avoir une idée de comment vous définiriez l'inquiétude? Alors, j'ai regardé dans le Larousse et on peut lire ceci. C'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Comment ça se définit un peu. Mais le sens dans la Bible du verbe, c'est, ça signifie être tiraillé entre plusieurs directions, ne pas savoir quoi faire, quoi prendre comme décision et avoir intérieurement une agitation et un débat avec soi-même concernant, comme a dit la sœur, le lendemain, l'avenir, les choses, etc. Donc l'inquiétude est déterminée, on pourrait dire, par l'agitation incontrôlée des cœurs et des pensées. Il y a un proverbe qui dit « l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas ». Donc c'est quelque chose qui siège dans le cœur et qui abat. Et rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit à Marthe, sœur de Marie. Marie, qui s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, et Marthe, qui était agitée, en train d'essayer de voir comment elle peut servir à faire les choses à la cuisine. Et Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est un parallélisme, mais si on pourrait dire tu t'inquiètes, ça veut dire tu t'agites. Tu es en train de bouger à droite, à gauche, tu tirailles entre une chose et une autre. Et Jésus lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. D'accord, donc on voit qu'on a une définition un peu de l'inquiétude ici comme quelque chose qui nous tiraille, qui nous agite, qui crée en nous beaucoup d'agitation à cause du fait qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Est-ce que le repas va être bon? Est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que ça va arriver à temps, etc. Et toutes ces questions se les posent et on s'agite avec cela. Bon, l'inquiétude peut aussi avoir le sens de prendre soin. Quand on dit il s'inquiète pour sa famille, ça veut dire qu'il prend soin de sa famille, ce n'est pas qu'il est agité. Donc, il peut avoir un sens positif aussi à l'inquiétude. Paul parle de Timothée en disant qu'il s'inquiète pour les Philippiens, qu'il a souci de leur situation. Donc, ça peut avoir un sens positif. Mais celui que l'on désigne ici, enfin, qui nous intéresse ici, c'est vraiment cette inquiétude que Jésus condamne, qu'on le voit dans le texte que nous avons lu ici. Et donc l'Écriture traite de ce sujet à plusieurs endroits, pas qu'ici, Jésus en parle, Pierre en parle, l'apôtre Paul en parle aussi de cela. Donc on va essayer de considérer que cet aspect ici ce soir avec le texte de Matthieu chapitre 6. Alors, la deuxième question, si je me souviens bien, c'était... Donc, quand on regarde ce texte, on a essayé de définir un petit peu ce sentiment, ou je ne sais pas comment il faudrait dire ça, d'inquiétude. Mais quel est le commandement de Jésus à l'égard de l'inquiétude ici? Qu'est-ce qu'il dit? C'est tout simple, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de piège dans la question. Oui? juste dans ce texte, ici, dans ce que nous avons lu. On essaie de rester le plus possible collé au texte que nous avons lu. Voilà, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et combien de fois il dit ça, ne vous inquiétez pas? Vous avez remarqué? Il faut regarder, on peut regarder. Hein. Verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Encore, où est-ce qu'on trouve encore? Verset 28, 20, alors 27, il dit qui de vous par ses inquiétudes. Donc, il parle de l'inquiétude, mais je parle juste de l'impératif, par exemple. Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, c'est où? 31, je crois. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et puis le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose, c'est un commandement qu'il donne. Ce n'est pas « vous devriez essayer de ne pas vous inquiéter ». C'est vraiment un ordre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc point. C'est-à-dire c'est une interdiction formelle pour l'enfant de Dieu de s'inquiéter. Ça, c'est son commandement. Mais il ne reste pas juste là. Et on a plusieurs versets, des versets 24 jusqu'au verset 34. Jésus dit un certain nombre de choses. D'accord ? Et je crois que ces choses nous permettent de définir un peu l'inquiétude et puis encore d'autres choses. Alors, la deuxième ou troisième question, c'était ici, qu'est-ce que Jésus, je ne sais pas comment je l'ai posé, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais quelqu'un là, qu'est-ce que Jésus dit ici, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que Jésus dit ici sur l'inquiétude. Donc, si on regarde un petit peu de plus près les versets, ici, on va essayer de dégager ce que Jésus dit concernant, par rapport à l'inquiétude. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Si on regarde le verset, je vais vous guider, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? On va le lire. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc il dit, ne vous inquiétez pas, si vous voulez. Hein. Alors, je saute au verset 27. Car qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors qu'est-ce que ça nous dit de l'inquiétude?
Elle est inutile.
Elle est inutile. Inutile, exactement. L'inquiétude est inutile, on pourrait dire, et je pourrais ajouter, et impuissante. J'ai mis impuissante pour changer quoi que ce soit. Inutile et impuissante, n'est-ce pas, pour changer quoi que ce soit. Parce qu'il dit quoi? Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter quelque chose à la longueur de sa vie? L'inquiétude est incapable de rallonger la vie. C'est ce qu'il dit ici. Et tout l'enjeu de l'inquiétude, c'est toujours de voir comment on peut vivre plus longtemps. En gros, c'est ça. On s'inquiète de on a dit tout à l'heure, de l'avenir, mais de comment les choses peuvent être mieux pour que je sois mieux, on pourrait dire quelque part, pour que les choses aillent mieux, pour que je vive mieux, pour que je sois en meilleure santé, etc. Et donc, ce que Jésus dit ici, c'est que l'inquiétude ne changera, est incapable de changer la situation telle qu'elle est. Elle n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir dans l'inquiétude pour pouvoir changer les choses, d'accord? Alors, j'ai rencontré un... Oui?
Au contraire, elle peut la raccourcir.
Oui. Entre guillemets, hein, elle peut parler... le psalmiste, le proverbe dit... l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Hein, on pourrait dire effectivement, ça crée des problèmes qui fait que voilà, hein, il développe des maladies, etc. Mais néanmoins, bon, j'ai rencontré un homme en Martinique qui on se promenait et puis il a dit, je sais pas là, mais je vais vous dire une chose. Hein, tous ceux qui sont vaccinés, préparez-vous à mourir dans 2 ans. Et cet homme était inquiet pour sa vie et il essayait de la rallonger en évitant le vaccin. On pourrait dire que c'était ça. Hein? Bon, alors, je ne lui ai pas dit qu'il faut prendre le vaccin, mais je lui ai dit, mais notre vie est déterminée par Dieu. Donc, l'inquiétude, tout ce qu'on fait pour essayer d'échapper à la durée de notre vie, ça n'aura aucun effet. Le psaume 139 dit ceci, je crois que vous avez étudié le psaume 139 avec le frère Jean-Pierre il n'y a pas très longtemps, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Ça veut dire que Dieu a fixé, il y a d'autres passages qui le disent, hein, la longueur de notre vie. Et on pourra se remuer comme on veut, comme disait quelqu'un, on n'ajoutera pas une seconde à ce que Dieu a écrit. Alors on pourrait dire, oui, mais je me souviens d'Ézéchias à qui Dieu avait dit, prépare tes affaires parce que tu vas mourir. Et il a prié. Et Dieu a rallongé de 15 ans, je crois, 15 ans la durée de sa vie. Ben, c'est que Dieu avait prévu qu'il disparaisse ça plus 15 ans, tout simplement. Et qu'il avait intégré sa prière dans la durée qu'il a fixée. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et tous les efforts du monde et toute la technologie du monde n'ajoutera pas une seconde au terme que Dieu a fixé pour notre vie. Donc, la question, c'est ne pas s'inquiéter, parce que l'inquiétude ne changera rien, en fait. L'inquiétude ne changera rien à ce que Dieu a fixé. Et bien au contraire, soit on peut dire qu'elle a raccourci, je ne sais pas si elle a raccourci, ou si Dieu l'a fixé, elle ne la raccourcit pas non plus. Hein. Mais en tout cas, je comprends ce que tu voulais dire. Elle peut ôter la joie au moins qu'on a, parce qu'il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc on peut dire qu'au lieu d'être réjoui, il est abattu, donc que l'inquiétude ajoute de l'abattement et entame sa joie. Donc l'inquiétude n'ajoutera rien, c'est ce que ça veut dire dans ce premier point, à notre incapacité propre. Et Luc le dit ainsi, hein, Jésus le dit dans ce que Luc rapporte dans Luc chapitre 12, verset 26, le même passage, hein, il dit « Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» C'est intéressant ça. Il dit, vous ne pouvez pas faire bouger le moindre petit curseur dans rien du tout. Pourquoi vous inquiétez pour tout le reste? Donc il dit, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le premier point. L'inquiétude est inutile, on a dit. Elle est impuissante pour changer quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il y a une autre chose, encore une autre vérité qu'on pourrait tirer de ce que Jésus dit ici sur l'inquiétude? Dans le passage, alors je vous aide un peu, hein. Au verset, par exemple, 30. Est-ce qu'il y a une vérité qu'on tire de là sur l'inquiétude? Oui, il dit ça, mais ça c'est plus sur ce que Dieu fait, mais sur quelque chose qui nous permet de caractériser l'inquiétude. Alors je relis, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur l'inquiétude? Exactement, l'inquiétude traduit un manque de foi, parce qu'il dit ici, bon, on est dans le thème de l'inquiétude ici, hein, il dit voilà, Dieu revêt l'herbe des champs, il fait ceci, et toi tu t'inquiètes, donc tu agis, et Jésus dit, vous êtes des gens de peu de foi, vous manquez de foi. Donc l'inquiétude ici traduit le manque de foi. Celui qui s'inquiète ne croit pas dans le pouvoir de Dieu d'intervenir dans tous les aspects de sa vie, d'accord, et ainsi il manifeste un manque de foi. Il ne croit pas à la puissance de Dieu de changer les circonstances, ni de la puissance de Dieu de le garder au sein des circonstances. Donc c'est un manque de foi. Gens de peu de foi, on pourrait traduire dans d'autres traductions, gens de petite foi aussi. Par exemple, quand on lit l'évangile de Marc, hein, vous vous rappelez de cet épisode où les disciples et Jésus sont dans un bateau, Et puis il y a un tourbillon, une tempête qui surgit. Et Jésus, il dort dans un coin sur un coussin, au calme. Et les disciples, bien sûr, ils sont réveillés, agités, ils sont inquiets. Et ils arrivent et ils disent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et puis, s'étant réveillé, la Bible dit, Jésus menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» On est encore ici, hein. Les disciples, non seulement ils sont inquiets, mais ils ne comprennent pas que Jésus ne s'inquiète pas. Et ils lui disent, « Mais ne t'inquiètes-tu donc pas ? Tu devrais t'inquiéter, tu devrais être en train d'être agité, faire quelque chose, parce qu'on va périr, tu ne peux pas rester ainsi. » Et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ils sont dans un bateau avec qui ? Avec Jésus. Comme avait dit un frère, une fois, il y a très longtemps, il dit, « Vous imaginez la scène ? Un bateau a coulé avec Jésus, et on y réécrit, Jésus s'est noyé. Hein ?» Il dit, « C'est un non-sens. » C'est un non-sens. Mais des fois, on agit un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on pense que Dieu va perdre la partie. Et si je ne fais pas quelque chose, ça va être la catastrophe. Plutôt que de se reposer comme lui, il le fait. Hein. Il dit à la mer, tais-toi, au vent, tais-toi, etc. Et puis il dit aux disciples, voilà, pourquoi, comment avez-vous ainsi, dit-il, peur ? Vous avez peur ainsi ? Comment n'avez-vous point de foi ? Et même dans les situations difficiles, hein, parfois, qui peuvent surgir, le Seigneur commande de ne pas s'inquiéter, avant le temps, hein, pour s'inquiéter. Donc, il y aura peut-être une tempête, il y aura peut-être une situation qui va s'empirer, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on commence à parler de l'automne, etc. Tu dis, non, t'inquiète pas de ces choses en tant qu'enfant de Dieu. Il faut avoir foi dans le Seigneur. L'inquiétude est la manifestation d'un manque de foi. Donc ça, c'est deuxième chose. Une troisième chose, est-ce qu'il y a une troisième chose qu'on peut souligner ici ? Alors, par exemple, au verset 31. Si on lit le verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Alors, est-ce qu'on pourrait qualifier... Essayez de qualifier l'inquiétude ici. Hein, c'est bien d'essayer de faire ça parce que ça nous permet de voir ce que Jésus dit sur l'inquiétude. Hein. C'est pas compris,
Paul ? En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter.
Oui, ça c'est ce qu'il dit. Mais est-ce que tu vois comment, est-ce qu'on voit comment il qualifie ? Quel rapport il fait ici avec l'inquiétude ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Oui, voilà. Il dit, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Autrement dit, les païens agissent d'une certaine manière. Ils recherchent, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va, hein ? Ils s'affolent, ils s'agitent. Il dit, ça c'est pour les païens. Sous-entendu, ça n'est pas pour le chrétien, pour ses disciples. D'accord ? Donc, il dit ici que l'inquiétude, c'est quoi l'inquiétude ? L'inquiétude, ici, est indigne du chrétien. On pourrait dire aussi que c'est une marque distinctive du païen. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. C'est pas que, bon, il s'inquiète. Non, il dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. C'est une marque distinctive des païens. La foi est une marque distinctive des enfants de Dieu. L'inquiétude est une marque distinctive des païens. Les païens ne connaissent pas Dieu. La Bible parle comme ça, hein, les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ainsi, ils s'inquiètent des choses. Et donc, une différence, on pourrait dire, doit exister entre les disciples de Christ et les païens. Et chaque fois que l'enfant de Dieu s'inquiète de cette manière, il agit en païen. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il avait dit la même chose en Matthieu chapitre 6, hein, au verset, concernant la prière, verset 7, si vous regardez un peu plus haut, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles. » Donc, il y a une manière de faire Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils répètent, répètent les prières, pensant qu'à force de répétition, Dieu va leur répondre. D'accord ? Mais il dit, vous, vous ne faites pas comme ça, parce que vous connaissez Dieu. Vous, vous ne vous inquiétez pas comme les païens, parce que vous, vous connaissez Dieu. Donc, Jésus dit que l'inquiétude est indigne de chrétien, c'est une marque distinctive des païens. Est-ce encore une autre petite chose, on pourrait dire, hein, pour qualifier l'inquiétude ici, dans ce que Jésus dit. Si vous regardez le verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui, en filigrane qui dit ici concernant l'inquiétude ? Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. D'accord ? Donc, c'est peut-être un peu plus difficile ici. Ici, on voit que l'inquiétude détourne des priorités spirituelles parce qu'elle fait chercher d'abord ce qui est matériel au lieu de chercher en premier le royaume de Dieu. Donc l'inquiétude nous pousse d'accord, vers le matériel et le terrestre au lieu de nous pousser vers la recherche des choses spirituelles, le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, les païens, eux, ils cherchent ça, mais vous, vous cherchez ça. Donc, on pourrait dire que l'inquiétude, ici, nous détourne des priorités spirituelles. C'est un peu ce qu'on voit avec Marthe et Marie, hein, quand Jésus dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il dit, Marthe, pourquoi tu cours, tu t'inquiètes ? Pour beaucoup de choses. Tu t'agites, pardon, et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie, elle a choisi la bonne part. Autrement dit, il y a eu une priorité qui a été établie par Marie qui ne s'inquiétait pas. Et Marthe qui s'inquiétait a une priorité différente. Elle a été détournée de la priorité spirituelle. Donc on trouve ça dans Luc chapitre 10, versets 41 et 42. Une dernière chose, peut-être encore. Le verset 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on peut voir ici concernant l'inquiétude ? De ne pas, tu dis ? Oui. Ouais. De ne pas trop anticiper. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, prendre ce qui est. En fait, l'idée, c'est de prendre ce qui est pour demain et essayer de traiter avec aujourd'hui. C'est ça un peu. Hein. Je n'ai pas entendu ? Oui, d'accord. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, d'accord. Donc ne pas anticiper, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'inquiétude ici ?
L'inquiétude n'a pas de lendemain.
oui. Enfin, il y en a parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on s'inquiète ? On s'occupe de quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je dis ? Que l'inquiétude, en fait. Travaille avec ce qui doit avoir lieu, enfin, ce qu'on pense avoir lieu, pas aujourd'hui même, mais demain. Donc, travaille avec quelque chose qui n'est pas encore. On est d'accord ? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Hein. On ne s'inquiète pas de la réalité présente, on s'inquiète de l'incertitude à venir. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger ? Et regardez comment Jésus le dit. Il dit, quand il parle, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous aurez comme vêtements, de quoi sera fait demain. C'est toujours sur quelque chose d'avenir que l'inquiétude se porte. Et l'inquiétude est en train de travailler avec des choses qui n'existent pas encore. Une situation qui
Qu'est-ce que je vais faire si dans un mois, on me dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, et que... mais on ne sait pas si on va nous demander ça dans un mois. D'accord ? Donc, on travaille avec ce qui n'existe pas encore. Et Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Hein ? Et chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, aujourd'hui, tu traites avec ce qui est devant toi aujourd'hui. Et puis demain, tu verras. De toute façon, tu ne sais même pas si tu seras là demain. D'accord ? Alors pourquoi porter la charge de demain ? Donc j'ai une disque comme ça, c'est que l'inquiétude fait porter des fardeaux inutiles. L'inquiétude fait porter des fardeaux inutiles. Parce qu'il nous fait porter le fardeau qui peut-être ne sera même pas demain, qui n'existera même pas demain. Y a un auteur qui a dit ceci, il a dit... que la moitié de nos misères sont causées par l'imagination des choses que nous pensons vont venir sur nous. La moitié de nos misères sont causées par l'imagination des choses qu'on pense vont nous arriver. Ici. Et il dit, la moitié des choses que nous anticipons ne viennent jamais. La moitié des choses que nous anticipons ne viennent jamais. Mais on travaille avec ça, etc., etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire de cette situation ? Qu'est-ce que je vais faire si on me dit ceci ? Puis finalement, quand les jours arrivent, on se dit, ouais, mais finalement, non, c'était pas si compliqué que ça. Non, ça s'est pas produit, ça s'est pas passé, etc. Et c'est pour ça que Jésus ne veut pas qu'on s'inquiète, même concernant pour les disciples, concernant des persécutions à venir. Il dit, même quand le spectre de la persécution est là, il faut pas vous inquiéter. Il le dit, je le lis dans Marc chapitre 13, verset 11, il dit, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. » Qu'est-ce que je vais dire ? Parfois on pose ces questions. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire si c'était moi qu'on avait arrêté, comme on me disait, j'avais caché des juifs pendant la guerre, puis on me demande qu'est-ce que... Bon, ça t'est pas arrivé. Ce n'est pas la peine de jouer avec ce qui ne t'est pas arrivé, d'accord ? Et puis si ça t'arrive, eh bien, Dieu prendra soin. Ce n'est pas la peine d'imaginer d'avance qu'est-ce que tu vas dire. Tu ne sais absolument pas dans quelles circonstances ça sera. Et Jésus dit, en Marc chapitre 13, verset 11, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Quand on est un enfant de Dieu, Dieu promet la direction de son esprit. Ceux qui marchent avec lui, qui le suivent, et il dit, ce n'est pas la peine déjà d'imaginer, de monter, d'échafauder votre plan, ça ne sert à rien. Il dit, au moment, quand vous serez dans des situations comme celle-là, Dieu vous dira à l'heure même ce que vous devez accomplir. Hein. Alors, je vous ai déjà dit cette histoire, il y a des gens qui disent, oui, moi, bon, qui se basent sur ça, et puis qui disent, moi, quand je prêche, je vais au pupitre. Dieu a dit de ne pas s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Et à l'heure même, le Saint-Esprit me dit ce que je dois dire. Là, on est dans un contexte de persécution et de souffrance. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu travailles. Hein? Travaille sérieusement pour enseigner la parole. Donc, on doit travailler, on doit préparer. C'est pas, ce verset n'est pas pour cela, mais il est pour les inquiétudes que l'on peut, les tortures que l'on peut faire à son esprit. Pour les disciples, surtout en particulier, avec le spectre à venir des persécutions. Donc il dit, n'essayez pas d'imaginer comment vous allez vous défendre. Dieu vous donnera exactement ce qu'il faut dire à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est pour, on pourrait dire, la nature de l'inquiétude, comment Jésus, les réalités que Jésus, les vérités que Jésus met en évidence concernant l'inquiétude. Alors je les reprends. L'inquiétude, on a dit, est inutile et impuissante pour changer quoi que ce soit. L'inquiétude traduit manque de foi. L'inquiétude caractérise le païen, est une marque distinctive du païen et non du chrétien. L'inquiétude détourne des priorités spirituelles et l'inquiétude fait porter des fardeaux inutiles. D'accord. Et donc l'inquiétude, juste peut-être une petite chose concernant le fardeau inutile. Hein, Et le fait qu'on gaspille la journée d'aujourd'hui, enfin, on la charge de ce qui était pour demain et qui ne sera peut-être même pas. Vous vous souvenez de, enfin, vous avez peut-être lu l'histoire de Corrie ten Boom, hein, qui était juive hollandaise, je crois, hein, et qui a été au camp de concentration et avec sa sœur. Hein, sa sœur est morte dans le camp et elle a écrit un livre et je pense que c'est dans ce livre-là, elle dit ceci concernant l'inquiétude. Elle dit que l'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain, mais elle prive aujourd'hui de sa force. Je vais bien aimer ça. L'inquiétude ne chasse pas le chagrin de demain. Pas parce que je m'inquiète aujourd'hui que demain ça sera mieux, mais ça me prive de vivre avec la force que je dois vivre aujourd'hui. Ça m'enlève l'énergie de vivre la force d'aujourd'hui. Donc il faut se tourner vers le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter là parce qu'on n'aura pas le temps de développer les autres choses. Mais si on peut retenir cela, hein, et puis voilà, prier et demander au Seigneur de nous aider à saisir que l'inquiétude ne changera rien, hein, dans ma situation. On n'a aucune puissance pour changer quoi que ce soit. Dieu a la puissance de changer les choses. Et il les changera s'il veut les changer. Sinon, il m'accorde la force de vivre au sein de ces difficultés. On peut prier que Dieu nous aide aussi à manifester une foi véritable en lui. L'inquiétude, on a dit, est un manque de foi. Donc, on dit à Dieu la grâce de ne pas nous inquiéter, mais de manifester une confiance en lui. Dans les circonstances que nous vivons, parfois elles sont différentes les uns pour les autres, mais on doit apprendre à, comme Dieu nous le commande ici, à avoir foi en Dieu, à ne pas nous comporter en païens, puisque l'inquiétude et l'agitation pour le lendemain, les choses, etc., ce sont les païens qui recherchent cela, dit Jésus. Et donc, que Dieu nous aide à ne pas nous comporter en païens, mais être un bon témoignage. Donner un témoignage chrétien dans ce monde bouleversé, je crois que ça c'est important de le souligner, dans ce monde bouleversé, je crois que les gens ont besoin de voir des chrétiens qui ne s'inquiètent pas et qui font confiance à Dieu, qui entendent un autre son que ce qu'on entend généralement sur les ondes. Hein. On a eu ces derniers temps, pendant qu'on était aux Antilles, on a fait des inondations, des incendies, des personnes qui meurent avec la maladie, etc., des tremblements de terre. Et des gens disaient, mais on a peur que se passe-t-il. Hein. Et le chrétien peut être dans cette même disposition où il dit, moi, je ne comprends rien, voilà, c'est vrai, ça fait peur, etc. Non, c'est l'occasion de dire que Dieu est au contrôle de toutes ces choses et que, oui, ça n'est pas des choses qui sont réjouissantes, mais on fait confiance au Seigneur et on ne s'agite pas. Qu'est-ce que ça va devenir pour mon enfant? Quel monde il aura, etc. Est-ce qu'il va trouver une planète en bon état? Est-ce qu'il va trouver... Non, on fait confiance à Dieu. Et puis, l'inquiétude doit... Prions que Dieu nous aide à garder les bonnes priorités. Chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'accord ? Donc, cherchons d'abord le royaume de Dieu. À être occupés par la propagation du royaume de Dieu, de l'évangile. Que ce soit bien... notre souci, que le Seigneur nous aide dans cela. Et puis, demandons à Dieu qu'il nous aide à refuser de porter la charge de demain. Laissons à chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Et qu'il nous aide à œuvrer avec ce qu'il met devant nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prévoyant. On ne parle pas de la prévoyance ici. Hein, d'accord ? On parle du fait de se triturer avec des choses qui ne se produiront même pas le lendemain. Mais Et on enjambe les choses que nous avons devant nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à considérer jour après jour ce qui est là devant nous. Accomplissons avec le temps qu'il nous donne ce qu'il met devant nous pour que nous puissions le faire. Voilà, on s'arrête là. Et puis, dans le petit temps qui nous reste, on va prendre quelques sujets de prière. Et la prochaine fois, on verra les remèdes que... un peu sous le même schéma, hein. Donc vous pouvez méditer, essayer de regarder un peu à l'avance. Quel remède Jésus donne
contre l'inquiétude. Là, il décrit un peu parce qu'il dit l'inquiétude, puis il dit d'autres choses qui sont une manière de considérer comment nous pouvons vaincre l'inquiétude.